bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec les gars de Boudini.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert. Bonjour. Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure. Guillermo.
Guillermo.
Et nos invités, Déborah François et Paul.
Bravo. Bravo.
Ravi de vous accueillir, vous êtes une habituée maintenant de l'émission, Déborah, François, ravi que vous reveniez dans cette émission, et c'est la première. Alors tu peux régler le niveau, Paul, parce que je te sens troublé par le niveau du casque.
C'est bon,
voilà, trouvé. Et c'est la première de Paul Ami pour la bande originale, et pour parler de ce film, L'Autre Continent, un film qui est d'une beauté dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'esthétique.
Choc esthétique.
Ah ouais, l'esthétique des images, du cadre, de la photo, de la lumière, et puis la beauté évidemment de vos jeux, de votre histoire extrêmement touchante et émouvante. C'est une réussite en tout cas. Donc bravo et merci de venir en parler à ce micro. On va évidemment rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, rentrons dans la vie de Déborah et de Paul. Avec
c'est gênant, c'est hyper gênant. Ouais.
Avec Déborah.
Si vous voulez, vous pouvez sortir. Hein, parce que ça...
Déborah est en Asie. Lorsqu'elle est en Asie, en tout cas.
Non, en Asie, j'ai cru qu'elle était déguisée en Asie.
Non, déguisée en Asie. Ouais.
Elle est en bois Asie.
C'est faire soirée de
penser. Albert, c'est nul. C'est un prochain. Franchement, ça, c'est la première question.
Respect. Soirée costumée. Ouais.
Mais j'étais à cette soirée, c'est génial.
Avec le prince Harry.
Et le président de la FIFA. Non, c'était de la. De truc automobile.
Là, oui, l'automobile.
Ah, je sais plus comment il s'appelait. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'elle aime pouvoir faire tard le soir lorsqu'elle est dans un pays asiatique, si vous préférez la question comme ça.
Même comme ça, cette question est un peu.
Qu'est-ce qu'elle aime faire le soir? Mais non, Déborah. Peut-être qu'on va avoir des réponses.
Bain de minuit.
C'est une activité.
Pardon.
Bain de minuit.
Non. C'est une activité. Alors, il y a.
Marcher dans la ville.
Non. Mais ça peut avoir un rapport avec les pieds.
Se faire masser
les pieds.
Exactement. Se faire masser les pieds. Il y a un deuxième truc aussi qu'elle peut faire à toute heure de la nuit.
Bah, manger quoi.
Exactement.
En se faisant masser les pieds.
Demande-lui, elle est là.
Je passe pour une grosse feignasse. En gros, qu'est-ce que tu veux faire à tout moment? Ben manger, me faire masser. Je pense que c'est un bon programme.
Bon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça.
Non, mais le c'est un vrai kiff, le massage des pieds à n'importe quelle heure de la nuit.
Mais c'est génial.
C'est vrai.
Je trouve ça génial. En plus,
ça fait penser à une scène du film d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Il y a toujours beaucoup de jet lag, enfin de différence d'horaire et tout ça. Et moi, j'adore ne pas, enfin rester dans le jet lag et justement partir à 3h. Parce que là-bas, les rues, enfin, c'est comme en plein jour, en fait. Tout est éclairé, tout est ouvert.
C'est comme New York, la ville ne dort jamais, c'est ça?
La ville ne dort jamais, et puis c'est vraiment, enfin, voilà, se dire, je suis en train de faire ça à 3h du matin, il y a un vrai apport, quoi.
Très bien. Paul mène une double carrière artistique, on va commencer facile.
Sculpteur.
Il est, ouais, c'est ça, comédien, artiste et sculpteur. Sur quel genre de matière travaillez-vous?
La pâte à sel?
Non. En ce moment, je fais des feuilles d'aluminium.
Donc c'est du collage ou on est quand même...
C'est du modelage.
Du modelage, c'est-à-dire...
Je crée des pots. Je pars à touches, par petites touches de matière qui se collent les unes aux autres, comme le gaffeur, je crée des pots.
Mais vous servez d'une structure en fil de fer, je sais pas, en acier, pour pouvoir donner des formes?
Non, ce que j'aime, c'est justement lui donner du volume à une matière qui n'est pas censée en avoir.
D'accord.
Une forme, je veux dire. Et puis,
le papier aluminium garde cette forme?
Le papier aluminium garde sa forme. Ensuite, je prends d'autres papiers aluminium que je plie pour lui donner un petit peu plus de rigidité. Et puis, je les monte, je les mets les uns avec les autres avec des attaches parisiennes. Et puis je
me rappelais que tu avais fait ça avec des gaffeurs pendant le tournage d'ailleurs.
Oui.
Pendant plusieurs jours.
Pendant les moments d'attente, les célèbres moments d'attente où un acteur, une actrice s'ennuie sur un plateau à attendre que la lumière soit prête ou que l'équipe dise on tourne, vous sculptez avec des le gaffeur, c'est une sorte de gros scotch, de gros.
C'est ça.
Voilà.
C'est un gros scotch en tissu.
Un ruban adhésif, voilà, c'est ça.
Ouais.
Que vous sculptez. Est-ce que.
Qui coûte une fortune aux ingé sons, donc ils étaient ravis que tous les jours. Paul en prête bah si c'est 1m50.
Pour en faire une sculpture, c'est cool. Ça peut valoir plus à la fin. Est-ce qu'il y a une grosse différence, pardon pour la question extrêmement naïve, entre la sculpture et la peinture pour vous? Ou est-ce que c'est le même art, sauf qu'il y en a un qui est appliqué en 2D et l'autre en 3D? C'est le même processus de création pour vous ou pas du tout?
C'est le même processus de création pour toutes les formes d'art, je pense, mais c'est les rendus qui sont différents. Après, moi, mon affinité mon œil, ma façon de faire, et puis aussi le toucher, c'est la sculpture qui...
Et le métal, vous aimez ça, en fait,
le métal, le tout, j'aime tout, j'aime toutes les tout ce qu'en fait, ce qui est malléable, j'aime ce qui est malléable, et qui demande peu d'outils.
Vous avez pensé à masser des pieds? On pourra conjuguer les talents.
Il passe beaucoup de pieds en ce moment.
Pourquoi un jour Déborah François s'est-elle retrouvée nue dans un couloir d'hôtel?
Pour un film, pour le tournage d'un film?
Non, parce que sa porte elle avait restée fermée de l'intérieur. Non.
Elle a fait une blague, un pari?
Non.
Elle est toujours comme ça à l'hôtel.
Non.
Non. C'était au Cap d'Agde.
Elle s'est pas beaucoup déshabillée dans le film.
Non.
Donc elle n'est pas toujours nue, non.
C'est quoi pour se tester, pour se mettre en
pour voir s'il faisait chaud dans le couloir.
Pourquoi
pour voir s'il faisait chaud dans le couloir. Oh, je vais aller pas voir la température. Ouais. Non,
c'est la canicule.
Pourquoi on peut se mettre nu dans un couloir d'hôtel?
Oh, bah, tu sais, toi.
Oui, mais
si y en a une qui sait, c'est toi.
On n'est pas là pour
si
parler de moi.
Oui, pardon.
Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver nu dans un couloir d'hôtel?
Ouais, parce qu'on essaie d'aller taper à la porte de quelqu'un.
Non,
et que... non, pas une
on
surprise.
On s'est fait foutre dehors de chez quelqu'un.
Non, non, elle était seule, enfin, pas totalement seule dans la chambre.
Elle était ivre.
Non, bah non.
Elle s'est disputée. Elle s'est disputée.
Non. Non.
Sacré Hervé.
En fait, elle s'est précipitée dans le couloir, puis d'un coup.
Pour room service.
Elle est. Non, et puis
elle avait faim, elle avait faim.
Elle a pris la porte. Elle s'est rendue compte.
Non, alors c'est pas loin. Elle s'est rendue compte qu'elle était nue dans le couloir, et vite elle est rentrée avant d'ailleurs que la porte se referme. D'accord. Si je raconte bien.
Exactement.
Voilà.
Elle s'est trompée
que j'y étais.
Vous étiez là, c'est incroyable. Ça vous a laissé un souvenir impérissable, je suis ravie.
C'était lui la petite commode.
Oh non, moi je suis pas commode. Petit oui, mais pas commode.
Je cueille du tiroir.
Ça suffit.
Pardon. On est en direct là?
Elle s'est trompée de porte.
Non, on aurait coupé tout ça.
Elle s'est trompée de porte. Elle est.
Non.
Je ne sais pas.
Ah bah, abandon total de l'équipe.
Ah oui.
Ouais,
non,
la défection. Guillermo, tu joues ou pas?
Je suis là.
Avec nous là.
Je suis pas d'inspiration.
Cauchemar. Racontez-nous, Déborah.
Alors, c'est avant mon premier film, dans la première scène, j'étais ultra stressée. J'avais 17 ans et j'ai fait un cauchemar. Mais alors. Horrible, je m'en rappelle encore aujourd'hui, je crois que c'est un des pires cauchemars de ma vie.
Qui est un peu le principe du cauchemar, oui.
Ouais, mais c'est rare de s'en rappeler aussi longtemps après, en fait. Et il y avait une énorme araignée, une espèce de tarentule, je suis hyper arachnophobe.
D'accord.
J'ai super peur des araignées, et elle arrivait vers moi sur le coussin, et c'était tellement réel, je voyais vraiment ma chambre d'hôtel et tout ça, que je me suis pas vraiment réveillée.
Vous êtes enfuie de votre lit.
De la chambre d'hôtel, et je me suis réveillée grâce à la lumière du couloir, en fait. Et donc, quand j'ai vu la lumière du couloir, j'ai compris que c'était qu'un cauchemar. Et j'ai compris que la porte se refermait. Donc, c'était beaucoup de réalisations en même temps.
Donc voilà. Ça fait beaucoup d'informations en même temps.
C'est clair.
En plus de savoir dans quelle position vous passez vos nuits.
Je me suis imaginé descendre à la réception.
quel est le pire cauchemar, cette fois-ci, de Paul Amy en tant qu'acteur de cinéma? Pour un acteur de cinéma, pour lui, le cauchemar, c'est quoi?
Oublier.
C'est juste pour vous montrer.
Ah, je veux bien avoir.
Le pire cauchemar en tant que comédien, c'est d'être coupé au montage?
Non. La promo?
C'est...
Non.
C'est quoi? C'est d'être en retard?
Non.
D'oublier un texte? De...
Non.
Se tromper de plateau?
Non.
Le pire cauchemar pour
un
comédien?
Ouais.
De ne pas pouvoir jouer, d'être bloqué devant son partenaire, d'être impressionné. De
une
pas
scène
être
d'amour avec Ariel Dombal.
Paul, est-ce que je peux m'envoyer la photo de votre sculpture avec les bouts de scotch pour la mettre sur Insta? Ça vous dérange pas? Ou
non,
c'est secret?
Non, allez-y.
C'est vrai?
Ouais.
Comme ça, on va montrer à tous nos auditeurs.
Vous étonnez pas si vous le voyez avec, en dessous une étiquette avec un prix qui essaye de le vendre.
Attends, on n'a pas trouvé la
photo, donc choisissez en une.
Non, mais celle que vous m'avez montrée. Oui, très bien.
J'en ai pris une au hasard.
Très bien.
Alors, j'ai toujours pas ton pire cauchemar, moi.
Pire cauchemar en tant qu'acteur, c'est-à-dire que c'est pas un cauchemar, il a pas fermé les yeux, il a pas dormi en disant. Non, il n'aimerait pas vivre. Non,
c'est pas ça.
Mais ne répondez pas,
il en a marre.
Il n'aimerait pas.
C'est Paul qui va faire
la vraie promotion.
Paul, dites que c'est ça, dites que c'est coupé au montage, comme ça je gagne le point, on en parle
plus. Non, apparemment c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Ça a été scellé dans la roche une
fois. Non, son pire cauchemar, c'est de.
Vous aurez fini de jouer avec votre téléphone,
de vivre une situation.
Non,
de vivre une situation en tant qu'acteur.
De vivre une situation en tant qu'acteur.
Il y a un truc qu'il n'aimerait pas vivre en tant qu'acteur.
La nudité, la violence,
non.
La violence et la nudité.
Non, ça c'est Déborah. Mais Paul
c'est
Amy.
Vrai
non.
J'ai pris ce créneau.
Il ne voudrait pas tant pis, vous avez pas trouvé. Il ne voudrait pas accepter un rôle uniquement pour
son
l'argent.
Physique.
Non, uniquement pour l'argent. Uniquement parce que vous avez faim et parce que pas pour un choix artistique. Ça, pour vous, c'est ce qu'il y a de pire dans le...
En tout cas, ça a l'air d'être une nouvelle pour vous.
Si, ça a changé depuis, non, Paul. Non.
Vous avez dit ça dans Chasse et Pêche en 99.
Ouais. Non. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, vous voulez dire ?
Non, j'espère pas.
Et vous pensez qu'il y a beaucoup de comédiens qui font des rôles parce que c'est alimentaire, parce qu'ils doivent payer leurs impôts, parce qu'ils doivent manger, parce qu'ils doivent s'en sortir dans la vie. Ils acceptent des choses qu'ils
aiment. Je pense qu'au final, quand on est comédien, on se retrouve toujours à faire des projets avec des gens qui ont des affinités. Et c'est pas quelque chose qui m'arrivera. On aura toujours une affinité artistique avec la personne qui vous propose un rôle. On trouve toujours un lien, quelque chose qui est intéressant à faire. Et mais je suis pas contre gagner de l'argent, mais.
Ah, j'ai pas dit ça. Sauf que dans la balance entre le cachet que l'on peut vous proposer, la somme que l'on peut vous proposer et l'intérêt du scénario, c'est d'abord l'intérêt artistique qui prévaut.
Je pense, ouais. Parce que un tournage, c'est une certaine période à passer. C'est quelque chose d'intense. C'est un moment assez prenant intellectuellement, physiquement. Et donc si le rôle ne m'intéresse pas,
est-ce que ça correspond à un genre de film ou un rôle ?
Ça pourrait être complètement déprimant, en fait. Ouais. C'est une sorte. Ça pourrait être déprimant après.
Je comprends, mais est-ce que c'est un genre de film ?
Ça peut être destructif.
Est-ce qu'il y a un film que vous ne voudriez pas jouer ?
Un film en particulier ?
Ouais, un film, est-ce que, je sais pas, une comédie ou au contraire
genre. Non, tous les genres, j'aimerais tous les genres. Après, peut-être qu'il y a des films que j'aimerais moins jouer que d'autres, mais je sais pas. Après, les rôles se font sur le moment quand on tourne et donc on peut tout transformer. Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas mis face à ce problème.
Que ce soit un bienvenu chez les ch'tis, un intouchable.
C'est dégueulasse de lui demander de se positionner là-dessus, genre.
Camping.
Dardenne.
C'est pas sympa.
Répondez pas. M'avait proposé énormément d'argent pour ce film. J'ai bien fait de le faire.
Parce que votre filmographie, pour l'instant, ce sont des films d'auteurs, on va dire, plus que des comédies populaires. Il y a pas de camping ou de tuche qui sont venus se glisser dans votre filmographie.
Non, mais je pense que si on propose tuche ou camping, ça dépendrait du rôle, en fait.
Très bien.
Vous aimez ça, le pognon, en fait.
Non, mais ça dépendrait du rôle.
Ça dépend ce qu'il y a à faire, bien sûr. Très bonne réponse. Quand elle n'arrive pas à dormir, Déborah, quand elle n'arrive pas à dormir nue, donc... Que peut regarder à la télévision ?
C'est dur avec moi, je dors tout le temps, en fait. Je dors en Asie à 3h du matin.
Non. La nuit, tu te fais masser les pieds, et le jour, tu te promènes nu dans les couloirs. C'est une vie.
Il faut bien que je dorme à un moment, c'est logique.
Donc, quand elle n'arrive pas à dormir, elle regarde la télévision. Mais quel genre de programme ?
De l'animalier.
L'hypnotise.
Les débats à l'Assemblée nationale.
Non.
Télé-réalité.
Non.
Au Sénat.
Non.
La mire.
Les jeux.
L'info.
Non.
Les pornos.
L'hypnotise. On a dit les dessins animés, la pub.
Non.
Téléachat, on a dit.
Non.
Les vieux films.
Non, mais un truc, tu te dis, c'est pas possible.
La mire.
Les feux d'amour. Plus, la mire.
Les feux d'amour.
Ça, c'est une réponse de vieux, fais gaffe, ça existe plus.
Tu veux quoi, un programme en particulier ou un genre de programme
comme tu veux. Hein,
Taratata.
Télécharger mire sur iPhone.
Faut relancer la mire, t'as raison, elle est morte.
C'est bien la mire.
Ouais. Si c'est pas des jeux, pas des téléfilms.
Non, mais quelque chose qui hypnotise.
Les clips.
Non. Où tu te demandes même
scientifique.
Même toi, tu te demandes l'intérêt de le regarder, quoi, en fait.
Les matchs de curling.
Pas loin. Alors, c'est un sport.
La Coupe de l'Amérique.
Un peu faussé.
La pétanque.
Non, un sport un peu.
Les fléchettes.
Non.
Le catch.
Oui.
Ah ouais, j'adore. Je suis d'accord.
Comment ça, un peu bidon.
Voilà. Merci.
Totalement bidon,
non,
le catch.
C'est pas complètement bidon.
C'est joué, c'est faux. Ils font semblant.
Mais c'est spectaculaire.
C'est une chorégraphie. Oui.
Mais tous mes rêves d'enfant s'envolent en fumée en 5 secondes, enfant.
Tout est faux dans le catch.
Défendez-nous le catch, Déborah, parce que là, il y a des gens qui.
Il y a deux choses que vous regardez.
Je rêve d'aller en live voir du catch.
Moi, je l'ai vu déjà.
Je l'ai fait une fois et c'était vachement bien.
Moi aussi.
Il y a plein d'enfants dans la salle, il y a plein de familles et tous les gens sont en folie.
Ils ont des personnages. Venez avec moi la prochaine fois, la
vie. Je vais pas déchiquer.
Je suis d'accord, mais c'est pas.
Challenge catch.
Ok, d'accord. Apparemment, il y a une star du catch qui malheureusement est décédée il y a quelques jours, une star mexicaine, c'est ça ? Je suis désolé de vous apprendre cette nouvelle, Déborah, qui doit vous choquer. Que s'est-il passé dès la première semaine de tournage de L'Ornithologue, un film ? C'était il y a 3 ans, je crois, où Paul Amy avait joué. Que lui est-il arrivé sur ce tournage ?
Il s'est cassé les deux chevilles.
Exactement.
Les deux ?
Alors ça, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
C'est sur la même scène.
Mais les deux en même temps?
Non, non, l'une après l'autre.
Aïe, aïe,
en fait, on fait plusieurs prises.
Vous êtes organisé.
Ouais, voilà. Je me suis dit, oh, je me suis fait mal à la droite, après je me suis fait mal à la gauche. L'autre.
Et vous deviez faire quoi?
Je devais marcher dans la montagne et on me filmait de 300 mètres sur l'autre versant de la montagne. Ouais, ouais. Et je devais juste aller d'un point A au point B. Et...
Vous êtes fragile comme garçon. Hein, si on marche, vous cassez les chevilles.
Non, justement, il est extrêmement musclé. Et vous avez l'air très physique.
Calme-toi, Nagui. Calme-toi.
J'ai les chevilles très fragiles.
Non, mais comment ça s'emballe?
Ça vient du basket.
Non, ouais. je trouve séduisant, musclé, beau, carré.
Il y a un petit filet de baffe qui commence à
faire. Ouais, j'ai du sang qui coule des oreilles. Mais donc, vous se pétez les chevilles, il faut vraiment y aller fort, non? Les deux en plus.
Ça craque, ouais.
Mais quand la première a craqué, vous n'avez pas fait « on arrête, coupé, j'ai mal ». Donc vous avez Actor Studio, vous continuez à fond.
Oui, j'ai continué. En fait, je suis insensible des chevilles maintenant. Donc,
ouais.
D'accord.
À force de les...
L'avantage du titane, oui. Vous dites sur ce tournage que vous aviez l'impression que l'équipe vous regardait en train de dire « mais il va mourir dans quelques instants ». Vous étiez dans de l'eau à 5 degrés, c'est ça?
Oui, en fait, chaque scène était éprouvante. Il y a tout un...
C'était une scène de bondage, non?
Il y a, en fait, le film...
C'est vrai, non, mais je mens pas. Tu me regardes comme ça, Daniel.
J'ai pas vu le film, donc je
on
sais
pas
si
c'est une scène de bondage. On n'a pas l'affiche du film? L'affiche du film, c'est une peinture avec un personnage qui est allongé. En fait, c'est ce moment du film, c'est un moment où le personnage Fernando se détache d'un bandage où il était attaché à un arbre par deux petites chinoises pèlerines qui sont perdues, qui sont égarées, qui cherchent la route de Compostelle.
Vous allez exciter Daniel
Morin, on va pas le tenir. Et qui retrouvent donc Fernando.
C'est quoi le titre du film déjà?
Qui retrouve Fernando noyé dans l'eau. Et qui le sauve parce qu'il a eu il a subi un accident sur son canoë dans les rivières du Portugal à la recherche de la cigogne noire. C'est une
Paul,
restez avec nous.
je suis pas là du tout pour ce film là. Non,
on reviendra pour
le film n'est plus au cinéma.
C'est pas ça le problème.
Le film s'appelle L'autre continent.
Je voudrais savoir.
L'autre continent de Romain Cogitor.
Paul,
c'était
qui sort aujourd'hui.
Paul. Je voudrais savoir. Je voudrais savoir quelle est la limite d'acteur que vous vous donnez dans
camping,
le jeu.
Camping.
Non, la limite du jeu, de la souffrance, de se retrouver avec deux chevilles cassées et de ne pas le dire presque pour ne pas gêner le tournage, de se retrouver à 5 degrés dans l'eau en ayant peur carrément de mourir en disant mais là je vais pas tenir. Enfin, il y a un moment où physiquement.
Et le bondage, attends, la position, c'est pas une position.
Oui, rappelle-nous la position.
Non, enfin bon, voilà.
Justement, le bondage est très agréable. J'avais mal aux épaules, ouais, j'en suis sorti.
Expliquez comment vous êtes attaché.
Ça m'a enlevé toutes mes douleurs.
Paul, expliquez comment vous êtes attaché.
Le bandage, il faut essayer.
Oui, d'accord.
Ça
doit être remboursé par la sécu, tout ça. Mais expliquez
si
la position.
Vous êtes chez vous en ce moment.
Paul, expliquez la position. Vous êtes lié comment?
Les mains dans le dos.
Ouais.
Les épaules
ouvertes
en arrière.
Ouais. Continue de parler.
les pieds
dans l'eau.
Et les mains attachées.
Avec un petit ruisseau qui passe.
D'accord.
Et en fait, c'est bandage, c'est une série de nœuds donc qui passent à travers le corps et qui lie tout et on est comme allongé mais debout en fait.
D'accord, ok. Vous ne m'avez toujours pas dit jusqu'où.
Sont des cordes de chanvre.
Jusqu'où physiquement vous êtes prêt à aller pour.
Pour de lui, sinon on va pas avancer dans l'émission.
Jusqu'où
il n'y a pas un moment de douleur où on dit au réalisateur là j'ai mal, on arrête, j'en peux plus.
Mais il n'y a pas mes chevilles c'est très particulier, elles se tordent tout le temps donc j'ai l'habitude aller dans l'eau et tout ça, c'est quelque chose de très bon pour la peau, donc à chaque fois je retire en fait du bon, du positif de ces situations.
Alors on a l'image, voilà.
C'est bien. Parlons de l'autre, alors on va la mettre aussi sur Insta, comme ça on va faire une émission en 3D. Parlons de l'autre continent. Cet autre continent, c'est l'histoire de deux guides touristiques plurilinguistes qui se retrouvent
polyglottes,
merci, qui se retrouvent l'un et l'autre à faire visiter leurs clients. On est en Chine.
Taïwan.
Si ma mémoire est bonne. Et puis il y a dès le début du film votre personnage Déborah qui est un peu une dévoreuse d'hommes, parce qu'on a l'impression que
elle a
pas mal d'amants. Elle dit beaucoup je t'aime à différentes personnes, et cautionnée presque par maman qui la dépose lieu en lieu avec des je t'aime en embrassant différents garçons. On dit ok, celle-là,
elle fait ses adieux à ses amoureux,
elle sait ce qu'elle veut, et d'ailleurs elle veut, et elle repère un autre guide, et elle fait du rentre dedans. Et bizarrement, ça accroche pas comme ça a l'habitude d'accrocher. C'est peut-être ça qui commence.
Moi, j'y vais, et puis garçon me plaît, donc je le drague, voilà, et je le drague très franchement, et je suis très franche et directe. Voilà, je sais ce que je veux, et lui, visiblement, ne sait pas trop. Enfin, j'ai du mal à savoir ce que lui veut, en fait. Et c'est vrai que je prends plutôt des gros vents, on peut le dire.
Ouais, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un bosseur. À la limite, quand il vous dit, viens à la maison, elle dit, ok, c'est bon, là, il va se passer un truc entre nous deux. Pas du tout, c'est pour te prêter un livre. Maintenant, c'est bon, tu as le livre, tu peux retourner chez toi.
Écoutez, merci, bonsoir. C'est ça. Très, très fort. Allez, salut.
Fin de soirée romantique, prendre
bon vent.
Et voilà. Au Louis.
Mais très bonne stratégie pour exacerber le désir, en fait.
D'autant que, assez rapidement, c'est lui qui va déclarer sa flamme, et c'est lui qui est un être extrêmement sensible, mais qui est déjà en décalage avec le monde dans lequel il vit. On le sent même dans sa manière de parler, de se comporter et d'être touché par
le
personnage du grand François. On le sent différent.
C'est ce qu'on m'a dit, ouais, en voyant le film. Ouais.
Enfin, c'était pas l'indication donnée par le réalisateur.
Si, en fait, maintenant que je m'en souviens. Oui,
Romain Cogitor.
Oui, il y a un côté autiste.
Il y a un côté vaporeux.
Il y a un côté.
Rêveur.
Je sais pas, côté rêveur. Il est dans son propre monde. Il a ses propres règles. Et lui, il veut pas coucher avant le mariage. Et puis, tout ce qui l'intéresse, c'est sa passion pour les langues.
Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté Forrest Gump. C'est-à-dire qu'il est dans son monde, il est dans son univers. Il a une capacité, une mémoire incroyable. Il parle 14 langues. Enfin, après, même quand on lui demande combien de langues il parle, ça dépend quel degré de maîtrise.
Oui, parce qu'il en parle trois mortes. 14 langues vivantes et 3 mortes.
Voilà.
Et puis après, il baragouine.
C'est urgent pour un guide, quoi.
Ouais, ouais.
Si on reçoit des vieux romains,
c'est ça. Un juge César qui veut visiter un temps.
Des Mésopotamiens, ça peut servir.
Et de là se crée une histoire d'amour quand même entre vous deux. Alors donc il y a cette progression, cette communion qui est extrêmement touchante, extrêmement émouvante, et avec une image, une réalisation dont on va parler avec Leïla dans 2 secondes. Mais intervient aussi un moment clé dans le film. La maladie. Alors je dis la maladie parce que peu importe la maladie, mais en tout cas
c'est le destin, quoi.
Voilà,
le destin qui leur tombe dessus.
Et c'est une maladie qui vient chambouler leur rapport.
Oui, bien sûr, c'est on n'a pas l'habitude d'imaginer en fait ce genre de situation, alors que c'est des choses qui sont plutôt, j'allais dire malheureusement, mais en fait plutôt courantes. Enfin, ouais. Voilà, que le destin frappe un jeune couple justement qui voilà se pose des questions plutôt sur où est-ce qu'on va habiter, combien d'enfants est-ce qu'on va avoir, et paf, tout d'un coup, il y a ce trauma qui arrive et cette nouvelle et effectivement. Maria, qui a peut-être toujours été légère au départ dans leur relation, et c'est le personnage d'Olivier qui a été plus profond.
La plus légère.
Elle va devoir trouver en fait vraiment une profondeur en elle, va devoir trouver des ressources, et va devoir, de cette fille éparpillée et qui distribue les je t'aime, elle va devoir passer à devenir vraiment le pilier en fait de la vie de ce garçon, parce que lui qui était tellement fort et qui a cette incroyable cerveau qui contient toutes ces langues, où il peut retenir des choses incroyables, tout d'un coup tout ça va partir en morceaux, en fait.
Alors, l'autre continent, ce titre-là, on peut l'expliquer un tout petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous les deux sur des mondes différents et qu'ils ont des perceptions différentes? Est-ce que c'est aussi... il va perdre d'abord ses langues, sa mémoire. Il va croire qu'il est au Canada alors qu'il est à Strasbourg. Donc, il va croire qu'il est sur un autre continent aussi. Qu'est-ce que vous comprenez, ou qu'est-ce que vous aimeriez que l'on comprenne de ce titre, l'autre continent? Ou est-ce que c'est encore plus imagé autour de l'amour, la maladie, la mort?
Pour moi, je pense que l'autre continent, il y a forcément l'Asie, effectivement, ça c'est le plus logique dans l'histoire, mais c'est le continent de la mémoire, il y a beaucoup d'images dans le film. En fait, le sujet est vraiment traité d'une façon très poétique et très lyrique, donc on n'est pas du tout... Le sujet, c'est pas la maladie, le sujet, c'est le couple. Donc il y a des images de Paul, que ce soit des images macro, donc de filmer de très très près, de très très loin. On essaye d'exprimer, en fait, que lui, il y a tout un moment dans l'histoire où il est perdu dans sa tête et où il recherche en fait tous ses souvenirs. Et d'ailleurs, il y a des moments où d'ailleurs il m'invite dans sa tête. Mmh. Je suis aussi dans sa tête à lui, c'est assez beau.
Et vous, Palami, comment vous expliqueriez le titre, L'autre continent, pour vous, c'est lequel ?
Je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Ouais. Et c'est aussi bien géographique, mais géographique mentalement que émotionnellement. Et l'autre continent, l'autre personne, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce que c'est d'aimer quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est d'appréhender l'autre ? Et de connaître l'autre, en fait, de pas le connaître totalement, de toujours pouvoir le découvrir, que chacun est un continent, et quand deux continents se rencontrent, il y a de ça, voilà.
Ça peut faire des tremblements de terre.
Ça peut faire des tremblements de terre. des volcans.
Et puis c'est un beau film parce que l'esthétique, elle est incroyable. Ouais. Alors toi tu connais le parcours de Romain Cogitor.
De Romain et puis de la famille, en fait, Cogitor. Parce que même si je veux pas enlever tout le mérite à Romain, c'est quand même une famille de cinéastes, de vidéastes. Je pense à Clément aussi, qui a eu le prix Marcel Duchamp. Là, le réalisateur, Romain Cogitor, il m'a complètement fasciné dans sa façon de raconter, parce que c'est une narration qui diffère de tous les films qu'on voit, donc c'est un véritable objet de ce point de vue-là, avec un parti pris, ne serait-ce qu'à l'ouverture du film, pour pas dévoiler trop de choses non plus, hyper esthétisant, avec des sortes d'images fixes qui se succèdent avec une voix. Ça aussi, c'est un principe assez utilisé dans l'art contemporain, donc je trouve que tout d'un coup, on se retrouve avec un autre continent aussi, en termes de cinéma, une forme de jonction de plusieurs arts qui en fait un cinéma, mais vraiment à part. Et je trouve ça hyper fort, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de films par ailleurs. Il a collaboré à d'autres projets. D'arriver à sortir un long comme ça.
Il nous emmène loin, quoi, en fait, avec les images, c'est vrai.
Et ce n'est pas seulement l'histoire de ce couple, de cet amour. C'est aussi une histoire qui se regarde, ne serait-ce que par la pensée qui est en action en termes d'esthétisme. Et je trouve que ce n'est pas juste beau pour faire beau, c'est beau pour faire un sens. Et je trouve que c'est hyper rare au cinéma de voir un objet comme celui-ci. Donc moi, je suis complètement fascinée par son travail.
Absolument. Merci. Ça, c'est vrai qu'on envoie de la merde, et là, ça soulève.
C'est vrai, c'est difficile de traduire une histoire d'amour en image qui soit justement, qui soit lyrique, en fait, qui nous emmène ailleurs et à la fois, effectivement, qui nous raconte vraiment quelque chose.
J'ai pensé à L'écume des jours, c'est pas en effet le même procédé que ce soit pour la réalisation de Gondry, mais si on revient vraiment au bouquin, de la façon de rendre esthétique un amour, de le traduire en image, quand on voit que le personnage que vous incarné, Paul commence à partir dans sa tête et à changer aussi de continent et donc ne plus avoir un rapport très précis avec sa mémoire, c'est rendu aussi par des images qui pourraient nous faire penser à ce nénuphar qui grandit dans le cœur de Chloé ou aux petites souris qui se baladent et qui... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là et c'est hyper rare d'allier la poésie à une maîtrise exceptionnelle du cadre et raconter quand même une histoire.
Merci.
Ça t'a plu ?
Moi, franchement, c'est mon coup de cœur.
Tu en parles super bien et c'est vrai que c'est pas facile de décrire l'esthétisme, c'est pas facile de décrire même les différents rôles qu'ont vos personnages, parce qu'il y a plusieurs rôles, puisque vous êtes dans plusieurs états, les uns et les autres, l'une et l'autre, au fur et à mesure du film, donc c'est pas...
C'est des vases communicants, c'est comme toujours dans un couple, quand il y en a un qui va plus bas, l'autre doit forcément reprendre le dessus.
Et on se demande à quel moment...
Et ça va dans l'autre sens, parce qu'on peut pas garder tout le temps la force. Il y a des moments où on a des failles, quoi.
Et à quel moment le couple va exploser, imploser ou au contraire se consolider. Ça s'appelle L'autre continent et c'est vraiment un très 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 beau film qui sort aujourd'hui, Jean-Dominique Besnier. C'est un succès annoncé. Hein.
Assurément, mon cher Nagui. Tout simplement parce que c'est l'histoire, on vient de le dire magnifiquement, Leïla, c'est l'histoire d'un amour à l'intensité, à la fois originale et universelle. Amour transcendé par le jeu subtil de Déborah François. Bonjour, Déborah. Et aussi, alias Maria, frondeuse et fougueuse à la fois, et aussi la présence très attachante de Paul Ami. Salut, Paul. Alias Olivier, moins assuré, sensible, plus fragile des chevilles, mais musclé comme un matonaga. Alors j'en suis certain, le public sera chez lui aussi par cette alliance subtile d'onirisme et de réalisme entre macro et microscopie. Mais surtout en tant qu'orthophoniste de star, c'est mon job, ce qui moi aussi m'a... qui m'a épaté, c'est plus simple à dire, c'est la prestation linguistique de nos deux invités. Des acteurs et des actrices plus ou moins polyglottes, on en a déjà vu ici. Mais dès qu'ils parlent 14 langues plus 3 mortes, comme Paul, ça, jamais. prononciation, accent, maîtrise du lexique et de la syntaxe, quelle performance! Alors vous, Déborah François, bon ok, en tant que citoyenne belge, vous avez des facilités pour causer en néerlandais. Bon, avant vous, hein, Guillermo Guige.
On sait pas en quoi il parle, Guillermo.
Voilà, le chanteur Dave était déjà passé de ses langues à l'autre, quitte à les mélanger. Non. Mais attention, attention, Déborah, je chante pas ça. Attention, Déborah, que vous soyez arrivé comme Paul aussi à maîtriser les quatre tons en mandarin, là, je dis chapeau chinois. Je vous explique, Nagui. En mandarin, il y a quatre tons.
Mais à quel âge cette vanne chapeau chinois?
Ah bah oui, mais il y a plusieurs chapeaux de broche, si on avait été en Afrique. Donc, en mandarin, écoutez, moi je suis orthophoniste, hein. En mandarin, il y a quatre tons, mm-hmm. et même un ton neutre. Alors, le ton utilisé pour prononcer les syllabes d'un mot, il peut changer complètement la signification de ce mot. C'est d'un complexe. Par exemple, ma, ça veut dire maman, mais mine, ça veut dire chèvre.
C'est un chat, ça.
C'est pas fini. Ma, hein, ça veut dire cheval. Et ma, ça signifie insulte. Bonjour la confusion. Pas fâche-toche le mandarin. Encore dans le cantonais, pas le rinagui, hein.
Oh
mais
non.
Le chinois parlé à Canton, il y a 9 tons différents. 9 comme le public. Oui. Bon, ceci dit, mon cher Nagui, parfois, oui. quand vous vous lancez dans une interview, dont les questions incluent 6 ou 7 réponses de façon poupée russe, précédées d'une exégèse rabiscultée, elle-même jalonnée d'incidentes et de parenthèses à rallonge, je vous avoue que pour moi, c'est du chinois vos questions. Bonne émission quand même.
Merci Albert. La bande originale. Le film, il y a également Daniel Martin, Christiane Millet, Vincent Pérez, en docteur, Nanou Garcia, Avis Dong, qui est absolument superbe. Elle est non seulement bonne comédienne.
Je l'adore. C'est mon grand coup de cœur du temps.
Mais elle est d'une beauté incroyable.
Elle est magnifique.
Incroyable. Magnifique. C'est au cinéma aujourd'hui ce film de Romain Cogitor, L'autre continent, avec Déborah François et Paul Amy qui sont nos invités. Justement, les langues ont été, à votre avis, le premier critère de casting pour Romain Cogitor quand il vous a contacté, Déborah c'est...
Donc, pas du tout.
Non.
Pas du tout. Pas
il a dit dans une interview pourtant que votre connaissance du.
Néerlandais.
Ouais.
Parce qu'on en a parlé ensemble après, parce que c'était pas un critère de parler forcément une langue étrangère, mais comme il y avait du mandarin à apprendre et que, effectivement, c'était pas évident à mémoriser, on a essayé de partir, que ce soit Paul ou moi, sur des langues qu'on avait déjà pu aborder, donc qu'on avait déjà dans l'oreille. Quoi.
Pour vous, Paul, quelle langue parliez-vous avant le tournage?
Je parlais un peu de portugais, un peu d'anglais déjà. Mais je pense que, tout le monde n'est pas capable de parler plusieurs langues parce que tout le monde n'est pas capable de transformer son palais et sa langue et sa bouche pour pouvoir construire d'autres sons.
C'est une question
de sonorité française.
De musique et de tonalité et d'intonation.
C'est une question de position de langue. Ouais. Parce comme ça ou parce que ça, et bah, dans une autre langue, voilà. Et bah, j'aurai l'accent qu'il faut.
Mais vous savez que le.
Donc, Paul sait faire beaucoup de positions de langue.
Voilà. Non, mais c'est marrant parce que.
Ce que l'on m'a dit, c'est qu'un enfant,
oui.
entre 0 et 5 ans,
oui.
En entendant des sons différents et justement des langues différentes, va avoir son palais qui va se former d'une manière plus ou moins différente ou capable de reproduire ces sons. Mmh. Et que donc il est important de faire entendre ces différentes langues à un enfant entre 0 et 5 ans pour que justement dans la vie, il ait plus de facilité à interpréter ou à parler ces langues.
Oui, oui. Complètement.
Petite parenthèse sur l'oreille. Palais, vous avez raison.
Non, il faut avoir l'oreille pour reconnaître
le
son. Moi, j'ai pas l'oreille.
Ouais.
Mais alors des fois, juste mécaniquement, j'arrive à positionner ma langue comme il faut pour créer le son. Moi, je j'arrive pas à discerner si c'est le bon son ou pas, mais on me dit que c'est le bon son, du coup, je continue à mettre ma langue comme il faut, ma bouche, ou transformer.
Et vous êtes arrivée sur le projet, la première, Déborah, c'est
oui,
ça?
Oui, ça fait longtemps qu'on parle de ce projet, qu'on a parlé. On a parlé au moins 2 ans en amont avec Romain du projet. Et puis entre le moment où on l'a tourné et maintenant, il s'est encore écoulé 2 ans.
Donc, et donc, vous parliez vraiment le flamand ou le néerlandais, en tout cas, facilement.
Dans mon enfance, je le parlais, donc j'ai dû me remettre à niveau quand même. J'ai fait une vraie remise à niveau de flamand.
D'accord.
Et, alors, et puis passer même l'utilisation des langues pour aller dans le sens du film, encore une fois, c'est ce qui est beau dans ce couple, c'est qu'ils ont plein de langages pour se parler, ils ont plein de vecteurs. Souvent, on parle des problèmes de communication entre deux personnes qui s'aiment, et eux, ils ont plein de détours par les langues qu'ils utilisent. C'est pas simplement esthétique et de se dire, ok, il est polyglotte, elle aussi parle plusieurs langues, non.
Et puis, surtout, ils s'en créent une à deux. Ouais, avec ils prennent des morceaux de toutes les langues qu'ils aiment, en fait, et ils les mettent ensemble. Et j'ai tendance à dire que où qu'ils soient dans le monde, du coup, ils peuvent parler une langue que les gens ne comprennent pas. Parce que quand ils reviennent en France, ils parlent chinois devant.
Non, mais ce qui est le cas d'un couple qui s'aime, c'est
que. Et de certains jumeaux. C'est la cryptophasie, on appelle ça.
D'accord. Non, mais moi, je parlais plus de mots-clés ou de codes où on peut se comprendre sans forcément employer le terme direct. L'autre continent, film signé Romain Cogitor, on continue d'en parler après un autre Belge.
Qui a du mal à positionner sa langue.
Guillermo Guise.
Allez, courage.
Ça va les amis gosses?
Ouais.
Alors l'autre jour j'étais là, j'achetais un pichet et je me disais Ernest, office de l'Ormano Doux et de la Marée Montante, tu es président de l'association franco-belge des amateurs de pichets en verre. Faut que t'en parles à la radio, garde pas ça pour toi.
Bah non.
Et alors appelez ça coïncidence, figurez-vous, on est justement mercredi 5 juin et c'est la deuxième journée spéciale Le Plastique Non Merci à France Inter en collaboration avec Combini, Valeurs Actuelles, Paul Pogba et la voix française de Danny DeVito. Grosse initiative à laquelle je suis ravi de participer. J'étais d'ailleurs à la réunion de préparation de cette journée où Laurence Bloch, la patronne de France Inter avait eu ces mots, moi c'est resté gravé. Elle avait dit voilà, les déchets plastiques, on va pas se mentir, c'est qui? C'est les Arabes, c'est les Chinois, les Noirs, beaucoup les Juifs et surtout les homosexuels. Et là, le représentant de Combini a lancé un applaudissement et c'était un trop bon moment quoi. J'étais là, waouh, si on pouvait toujours être aussi connectés les uns aux autres. Je voyais la meuf de Valeurs Actuelles, elle était en larmes et tout. Et Laurence Bloch a fait, pour le slogan, j'avais pensé à le plastique, non merci. Tandis quoi, Ernest, office de Paul Le Poulpe. Et je dis franchement, Laurence Bloch, ça vous embête pas si je prends pas de gants? J'adore. J'adore, ça dit tout, le plastique non merci, si tu le prononces bien avec la bonne intonation, le plastique non merci. Alors le message passe, le message passe parce qu'on croit toujours que dans le public de France Inter on a que des adultes, mais 72 ans c'est une moyenne, hein. Il y a des enfants aussi sûrement. Hein. Alors dans l'élan, je me dis bah tant qu'à faire, on pourrait même ajouter le plastique non merci, mais les enfants, oui merci les enfants. Et ils ont pas retenu mon idée. Mais Laurence Bloch, elle m'a dit, tu sais quoi Ernesto, fils d'Ernesto Senior et de Dominique Voynet, tu sais ce qui manque à cette journée spéciale? Une bonne chronique bien drôle. Et parce qu'aucun humoriste n'en a jamais parlé en France Inter du plastique, à part Tanguy Pastureau et Marina Rollman et Guillaume Meurice, Sophia Aram, Alex Vizorek, Nicole Ferroni, Tex, Thierry Leluron, le ménestrel d'Henri IV, les deux êtres unicellulaires avant quand c'était encore Lina. Et donc grosse pression pour moi, parce qu'il a quand même du talent, tu vois, Guillaume Meurice. Et je me rappelle très bien. J'avais dit ok Laurence Bloch, mais alors j'ai carte blanche, je vous préviens, je parle pichet. Elle m'a dit banco. Alors toi, il faut savoir un truc, c'est que moi je bois au moins 2 litres d'eau par jour. Si je fais pas ça avec l'hygiène de vie que j'ai, moi je ressemble dans 6 mois à Jean Dormesson clairement, tu vois. Parce que c'est grâce à l'eau que j'ai une tête de paroissien et que j'ai encore un peu mes chances avec Jean-Marc Morandini, tu vois. Sauf qu'avant, moi je buvais de l'eau en bouteille et sans penser pollution, parce que moi je viens d'une génération, tu vois, les 1965, on était mal informés. Pas vrai Nagui, tu vois. Vous me disiez ah mon humeur ça pollue. Allez, vraiment, tu vois, on savait pas. Ah, oui. C'est vrai. Moi j'achetais une bouteille d'eau en plastique, comme ça je la buvais, puis je la jetais sur le trottoir. Je croyais bien faire. Je me disais avec tout ce plastique, autant faire plaisir à un oiseau, tu vois. Vraiment, on a tous vu Ushuaïa. Mais bon, progressivement, j'ai commencé à entendre les rumeurs et tout, comme quoi on avait retrouvé 1 kilo de plastique dans le ventre du commandant Cousteau. Et j'ai commencé à faire attention parce que je réutilisais mes bouteilles d'eau mais avec de l'eau du robinet. Et c'est pas une bonne idée parce que dans une bouteille d'eau en plastique réutilisée, il y a 60 fois plus de bactéries que dans la gamelle d'un chien. Et c'est un animal qui a vite tendance à prendre ses couilles pour un calipo quand même, tu vois. Donc, quand j'ai appris ça, ça m'a donné envie de crever dans un casque à pointe. Franchement, je me suis dit, putain, c'est pour me taper autant de bactéries dans la gueule d'un clébard, autant lui faire la bise à Daniel Morin, tu vois. Tant qu'à faire, qu'on en finisse, quoi. Et là, et j'ai moi-même fini par changer mes habitudes de consommation en adoptant mon pichet, ma bataille, vraiment. Et ça demande une discipline, parce que c'est pratique une petite bouteille d'eau, tu vois. Parfois, t'es là, t'es quelqu'un de ta famille, tu dis, quoi, t'aimerais bien prendre de l'extasie? Tu dis, bah évidemment, mamie. Et là, on en parlait avec Leïla, elle me disait, bah, tu sais, moi, quand je suis sous taz en soirée, j'ai besoin de ma petite bouteille d'eau pour m'hydrater. Je vais quand même pas danser sur du Solomon avec un pichet, hein. T'imagines toute l'eau sur mes souliers, hein. Pourtant, il faudra bien aller tox comme les autres. Allez, bonne émission, les gars.
Merci, bien.
Ce mec est fou et nous tenons évidemment à disposition auprès de la police son adresse personnelle ainsi que son numéro de portable. La musique dans le film. Parce que il y a plusieurs personnages, évidemment vous deux en personnages principaux, mais la réalisation, la lumière, le cadre, c'est aussi un personnage. Il y a une écriture, la musique aussi. Il y a une bande-son qui est absolument prenante, envoûtante, et qui soutient les nuits blanches, par exemple, aussi. Elle m'a
pyromane. Sans elle, tu sais, je ne suis plus le mal.
Et la musique dans vos vies, et c'est ce qu'on vous a demandé, la bande originale.
Je précisais du coup que la musique est de Mathieu Lambolé et qu'on, qu'on a, voilà, que c'est lui qui a fait les compositions qui ont été faites ici en France et avec la voix d'une chanteuse taïwanaise. Donc c'est vraiment un mix aussi.
Tu as bien fait de rattraper mon métier. On va commencer dans les années 82 avec Déborah François. En 87, pardon. Vous écoutiez pas Madonna ? Vous êtes né à votre naissance, c'est de la musique de votre naissance.
Oui, c'était pas en 82, mais...
Non, en 87. Oui, je me suis rattrapé.
Moi, j'étais baignée dans Madonna parce que j'avais une grande sœur qui est plus âgée que moi. Et quand je suis née, elle était adolescente à fond Madonna. Donc j'ai eu que ça jusqu'à mes 5-6 ans.
Pas au point d'en faire un Roger, en tout cas.
Non, pas du tout, au contraire, ma sœur me prenait comme petite poupée, comme accessoire, parce qu'elle faisait des playbacks de Madonna. Donc j'étais la petite poupée accessoire, c'était marrant.
Et très vite, vous avez eu ce désir de devenir comédienne de théâtre, et non pas de cinéma.
Non, de théâtre, effectivement.
Pourquoi le théâtre ?
Parce que le rapport au public, il y avait quelque chose d'avoir les gens directement devant soi. Et puis je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionnée quand moi j'étais enfant.
Et comment on éprouve ça ?
Mes parents m'emmenaient au théâtre et je trouvais ça extraordinaire. Le côté, les lumières, il y avait quelque chose de plus lointain en fait que le cinéma, de plus impressionnant quoi. Pour moi le cinéma c'était autre chose.
Donc ça veut dire que tout de suite des cours de théâtre très jeune ou c'est un cheminement
Je voulais faire le conservatoire, j'étais un peu jeune pour commencer, du coup j'ai pu aller à Liège, je me suis battue hein, pour pouvoir faire des cours de théâtre. J'ai demandé à mes parents des années et des années et des années et ils ont fini par
lâcher.
Ouais. Ça a commencé à Liège, les premiers cours de théâtre étaient à Liège.
Oui.
D'accord. Quant à vous, Paul Ami, en 82, vous écoutiez.
Marcel, si j'avais des ailes, je
ne serais pas
sa aile. Marcel,
que vous évoque Bobby Lapointe.
La joie. La bonne humeur.
Vous entendiez ça à la maison, vous entendez ça?
C'est un
papa, maman, écoutez.
Oui, j'avais le CD, je me rappelle, c'était mon CD préféré.
Takati Takité
et la maman des poissons.
La maman des poissons, tout ça. Ouais.
Et vous, Paul, on parlait de langue tout à l'heure, vous grandissez avec deux langues aussi.
Oui.
L'anglais et le français.
Ouais, voilà.
Et puis entre Paris.
Enfin, l'anglais, non, l'américain, quand même, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, ouais.
Ouais, bon, en tout cas, ça donne quand même une façon de positionner sa langue, de trouver, de comprendre la musicalité d'une autre. Non, mais moi, tout va bien.
Non, mais j'ai découvert très tôt, en fait, en ayant ces deux langues, que quand je parlais, quand j'allais voir mon père et que je commençais à parler anglais, j'oubliais petit à petit un peu le français et je pensais différemment. Il y a toute une langue apporte aussi une pensée,
une psychologie. Non, mais c'est vrai, quand on est polyglotte, on pense en quelle langue ?
Pour chaque langue, une psychologie. Après, c'est celle qui est le plus parlée autour de nous. Ouais. Donc,
mais en tout cas, c'est vrai que ça conduit une pensée différente.
Je ne vais pas penser en anglais maintenant, là.
Non,
et parler en français, mais...
Mais quand vous étiez aux États-Unis avec votre père, vous pensiez en anglais.
Voilà.
D'accord.
Ouais.
Et ça mène à penser différemment.
Ça mène à penser différemment, ouais.
Ouais. Et vous, alors on parlait du théâtre pour Déborah, vous c'est le cinéma, très tôt, très jeune, je crois que votre père, votre mère travaillait pour l'émission Cinéma.
Sublime émission, ouais.
Sur Antenne 2 à l'époque, on l'appelait comme ça.
Et avec ce générique dans le couloir avec les portes qui s'ouvraient tout le long, et pas Déborah François nue dans le couloir, c'est très bizarre.
Ça, voilà.
Très gênant.
Là, c'est une sorte de mix temporel, et très tôt aussi vous voyez des films, en tout cas votre mère vous initie au cinéma.
Oui.
Il y a des réalisateurs en particulier que vous retenez. Je crois que c'est des réalisateurs qui conviennent pas forcément à un jeune enfant. En tout cas, que c'est hyper pointu.
Mais je m'en souviens pas, mais je sais, elle me dit encore qu'elle m'emmenait dans des salles de cinéma quand j'avais 2 ans, 1 an, et que je me mettais devant un film et je le regardais du début à la fin sans...
Mais c'était quoi, des westerns ou des films d'auteur?
Non, là, c'est
tout.
Kurosawa, je vois dans les interviews.
Kurosawa, enfant?
Ouais.
Ah ouais.
Non mais en fait quand on est enfant, on peut tout aborder, je pense que c'est la beauté de l'image. Mm-hmm. Non mais après plus tard très vite j'aborde le cinéma d'une manière un peu les créateurs du cinéma quoi, je pensais pas que j'allais devenir acteur, je n'avais pas l'ambition. Mais j'ai toujours eu un œil pour le cinéma en tant que art.
En 2004, Déborah, vous écoutiez. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de chorégraphie devant les miroirs de la salle de bain avec la brosse à cheveux comme
il y a,
micro.
Il y a une carrière là. Ouais.
Ah ouais, je crois qu'il y a un truc. Ouais. Point commun avec Camille Chamou aussi, le Oops, I Did Again.
Ah oui,
on vous a dit pareil. Ouais. Britney Spears, 2004, cette musique évoque quoi pour vous?
Bah, c'est toute mon adolescence en fait. Toute mon adolescence et quand je faisais l'enfant des frères Dardenne, j'écoutais Britney Spears sur mon. Personne ne savait ce que j'avais dans mon casque et tout ça, mais c'est ça que j'écoutais.
On a du mal en voyant.
Voilà.
On a du mal.
Effectivement, tout le monde me dit on a du mal à.
Associer les
mais
deux,
je l'ai fait, donc cool. J'ai raison.
Et il y a 150 candidates, même un peu plus, qui postulent pour ce rôle dans ce film des frères Dardenne.
Ah, mais ils n'écoutaient pas la bonne bande son. Désolé.
Et alors.
L'enfant.
Ce qui est fou, ouais, l'enfant, ce qui est fou, c'est que vous ne connaissiez pas du tout le cinéma des Dardenne. Bon, vous étiez jeune, mais et vous ne vouliez pas nécessairement vous documenter avant.
Non, ça m'a fait peur avant, ouais. Parce que, enfin, ça m'a fait peur. Ça m'a mis un gros coup de pression. Moi, qui ai tendance à être une grande anxieuse déjà de base, donc du coup, j'ai pas voulu en fait. Tout le monde me disait ah, enfin, j'entendais en fait, il y avait une rumeur déjà tellement pressurisante autour que je me suis dit si je regarde, je vais copier ou ça va me faire peur ou ça va me décourager. Donc je regarde pas, j'y vais, je fonce.
Et vous avez 18 ans et le film remporte la Palme d'Or à Cannes.
Bah oui, bravo à eux.
c'était
incroyable, c'était un moment complètement dingue.
Et vous avez été nommée aussi au César.
Et j'étais nommée au César pour celui-là.
L'enfant aussi. Quant à vous, Paul Ami, vous écoutiez Notorious B.I.G. Hey Tupac. Ce qui fait la grosse différence, ça, c'est que vous comprenez tout ce qu'ils disent, quoi.
Ouais.
Enfin, à part nous, on comprend les mots of fuck, mais le reste aussi, quoi, c'est ça.
Ouais, c'est toute une énergie, hein, l'hip-hop. C'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est tout. C'est le beat.
C'est le ton aussi.
C'est le ton, c'est le rythme, c'est la danse, une façon de se comporter, c'est plein de choses. C'est du jeu, c'est une énergie qui
c'est, c'est une manière de faire sortir, en tout cas, des choses.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Et vous, Paul, vous fondez à ce moment-là un collectif. Le collectif Pain au chocolat, POC.
Ouais.
Quelle est l'ambition de ce collectif à cette époque?
Se battre contre la chocolatine.
On ne pourra jamais gagner contre la chocolatine. Mais je ne démords pas de la chocolatine. Quelle est l'ambition de ce collectif? On a des combats qu'on a. Hein, voilà.
On était 10 copains, on habitait tous à Pigalle et on avait tous des ambitions artistiques. On avait envie de se fédérer autour d'une même énergie.
De faire votre factory, en fait.
Voilà, un petit peu, ouais. Et puis, on a tous, comme ça, émergé chacun de notre côté. Maintenant, on ne fait plus pas au chocolat, mais on est...
Vous êtes toujours en contact?
On est tous toujours en contact, on est toujours la famille. Ouais.
Et quel genre d'artistes, aujourd'hui, ont émergé, en fait, de ce collectif?
Bah, y a des designers, y a des danseurs, des musiciens, des gens qui font de la vidéo, des clips...
Tout est très complémentaire, c'est-à-dire que chacun apporte quelque chose à la création de l'autre.
Oui, à la base, on aimait juste en fait danser, faire la fête, créer des événements.
Voilà. C'est la réalité, ça.
Ouais, ça c'est la réalité.
Non, mais que le plaisir soit le point de départ de quelque chose qui a comme finalité le plaisir, c'est un joli chemin, non?
Bah oui, oui. On pensait pas qu'on y allait arriver autrement, en fait. Chacun de nous, en fait, avait une sorte de vouloir de se dépasser. Et d'y arriver par l'amitié.
Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a une solidarité ou pas? Il y a un réseau qui continue à exister avec les anciens de Pain au chocolat?
Ben, on continue. Après, vous savez comment va la vie. La vie va de plus en plus vite. Et puis, chacun va dans son sens. Après, on échange encore. Mais on n'est plus aussi liés dans notre création de tous les jours. Professionnel.
On retrouve aussi ce genre de bande autour de Vincent Cassel avec Courtage May qui avait avec toute cette bande d'ailleurs qui s'est retrouvée au festival de Cannes avec Les Misérables. Ouais. Mmh. C'est ce même esprit-là, c'est se dire aussi le point de départ, c'est pourquoi pas nous? Pourquoi on n'aurait pas droit nous aussi à nous exprimer dans tous les arts imaginables?
Je pense que c'est aussi de se dire on n'y arrivera que par nous. Ouais. Il y a que ensemble qu'on peut y arriver sans l'aide de personne.
On n'a pas la carte, quoi. On n'a pas le.
Non. Et en fait, on va créer notre propre identité et on va créer nos propres espaces et on va take over. Ça s'appelle. On va take over. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on l'a très bien fait. Il y a des très belles carrières en fait qui sont parties du Pain au chocolat.
Pour arriver à l'autre continent aujourd'hui, Déborah François et Paul Amy, ce film réalisé par Romain Cogitor, on a beaucoup parlé des langues présentes dans le film et de la notion de connaissance de ces langues, et y compris on va en parler aussi de la manière de les apprendre ou de les retenir dans l'espace, faire travailler sa mémoire. Chantal Mann, bonjour.
Bonjour.
Chantal, vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale en anglais, co-auteur avec Alex Taylor d'un rapport proposition pour une meilleure prise en compte des langues vivantes étrangères, Oser dire le nouveau monde, ça a été remis en septembre de l'année dernière au ministère de l'éducation nationale. Vous en avez eu d'ailleurs des nouvelles ou pas? Parce qu'on entend souvent qu'il y a des rapports comme ça qui sont remis, et y a-t-il une suite?
Oui, il y a une suite. Vous permettez, Nagui, je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce que j'ai écouté avec grand plaisir. J'ai trouvé votre façon de présenter ce film sur les langues, le langage, les continents qui se rapprochent, les façons de communiquer d'un continent à l'autre avec des langues différentes, mais aussi le fait que ces langues peuvent aussi servir à taire les langues, et le silence rapproche, le langage de l'amour qui prend un petit peu le dessus. J'ai trouvé tout ça très joli, et certainement ça m'a donné envie d'aller voir ce film. Sur les langues.
N'hésitez pas à aller le voir.
Oui, j'irai le voir et j'enverrai tous ceux que je côtoie et que je connais.
De nos différents accents.
Exactement. Est-ce qu'on les juger.
Est-ce qu'on est si mauvais, la réputation du français, c'est de ne pas être doué en langue?
Oui, alors moi je porte une vision complètement différente de tout cela. Je considère que, comme tout bon enseignant, la bonne attitude, c'est d'encourager l'élève. Donc répéter à l'envi aux Français qui sont nuls en langue ne fera sûrement pas avancer les choses. Je ne pense pas qu'ils soient nuls en langue. Je pense par contre qu'il y a un certain nombre de facteurs historiques, culturels, qui conduisent les Français à penser qu'ils sont nuls en langue, et plus on se le répète...
Il y a une réalité, Chantal.
Alors, il y a une réalité.
Celle de l'accent tonique qui a disparu sur le français et
oui.
qui continue d'exister en italien, en espagnol,
oui, mais...
en Belgique, oui. en anglais, et l'accent tonique, y compris oui. en mandarin.
Être bon, c'est pas forcément avoir un bon accent.
Merci beaucoup, Leïla, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Je pense que parler une langue, le français veut absolument... Désolé, Nagui.
Là, une des tests.
Les deux qui m'ont mouché.
Non, mais non, c'était pas ça.
Non, mais les langues sont différentes.
Je parle en connaissance de cause, j'ai un accent pitoyable, mais je me débrouille, quoi.
Voilà.
Et je crois que c'est ça.
Voilà.
Mais c'est pas Chantal.
Pardon, Chantal.
Non, mais voilà, je pense que les langues sont différentes. Certaines ont des accents toniques, d'autres n'ont pas. Certaines ont des tons. Mais l'important n'est pas de parler une langue avec un parfait accent. Ça, c'est le but que les Français se fixent en se disant, tant que je n'aurai pas un accent parfait, je n'ouvre pas la bouche. Mmh. Donc c'est ça.
Si vous mettez pas le bon accent sur un mot en anglais, vous pouvez aussi bien avoir des draps que de la merde.
Oui,
donc il y a
mais
un moment
pourrez...
où la tonalité et l'accent est important.
Non, mais vous avez raison. Je ne dis pas que l'objectif, c'est de dire n'importe quoi, n'importe comment.
D'accord.
Je dis que l'objectif, c'est de se lancer. D'oser commencer. À partir du moment où vous commencez à dire un certain nombre de phrases, eh bien, quelqu'un pourra vous corriger, vous pourrez les améliorer, vous pourrez écouter d'autres langues. Je pense qu'il faut démarrer le processus d'apprentissage en se disant, je suis capable de le faire. Je parlerai peut-être, effectivement, l'américain avec un accent un peu français, mais je le parlerai, je me débrouillerai, j'apprendrai à communiquer. Et beaucoup d'autres pays ont cette démarche intellectuelle, et ça change tout. Ils commencent très tôt. Les professeurs sont formés très tôt pour que dans la classe, il y ait un apprentissage des langues qui soit ludique, qui soit drôle, qui soit interactif, sans qu'il y ait sans arrêt un jugement porté. Et c'est ça que je porte.
Et pourquoi les professeurs d'anglais ou d'espagnol, pour prendre ces deux langues, ne seraient pas des anglais ou des espagnols?
Ne serait pas, pardon.
Anglais ou espagnol, c'est-à-dire qu'un français, alors, un français qui apprend l'anglais à un français, il y a quand même des chances que ça soit pas l'anglais parfait.
Alors oui, bien entendu, c'est très bien d'avoir des locuteurs natifs qui interviennent dans les classes. On en a un certain nombre.
D'accord.
On a un programme d'assistants qui fait venir des jeunes du monde entier. Alors premièrement, le fait d'être natif ne veut pas dire que vous savez bien enseigner la langue qui est votre langue. Donc il faut aussi une formation pédagogique.
Bien sûr.
Et puis d'autre part, nous avons quand même 12,5 millions d'élèves, donc nous ne pouvons pas considérer que l'apprentissage des langues ne peut reposer que sur des locuteurs natifs. Et c'est important pour chaque élève d'avoir un contact avec une langue prononcée par un locuteur natif. C'est pour ça que le numérique apporte aujourd'hui dans la classe tous les accents, toutes les langues du monde. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un anglais à côté de vous assis dans la classe pour parler anglais. Vous allez sur Internet, vous utilisez la visioconférence, vous utilisez tous les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui. C'est ça qu'il faut généraliser dans l'apprentissage des langues en classe en France. Je suis contente, je vois que les
Jopine du chef.
Oui,
c'est une alliée.
Ça, c'est parce que c'est l'heure de l'apéro.
Et Il n'y a pas que l'anglais, le mandarin.
Merci de le dire.
Le mandarin dont on parle aussi, est-ce qu'elle fait partie des langues réclamées par les élèves?
Oui. Il y a une grande augmentation de la demande des familles pour le chinois. Le mandarin, c'est la première langue parlée dans le monde, hein, 1,2 milliard de personnes. La France, c'est la cinquième langue parlée. L'anglais, c'est la troisième langue.
La différence, c'est que la France est parlée dans d'autres pays que la France, alors que le mandarin n'est parlé qu'en Chine.
Même chose pour l'anglais. L'anglais est parlé à travers tous les continents, et c'est pour ça que c'est la langue la plus demandée, puis c'est la langue de communication. Mais vous savez, au bac en France, aujourd'hui, on peut passer 45 langues. On peut présenter le baccalauréat dans 45 langues différentes.
Daniel Morel a présenté en même temps. C'est
une note incroyable.
Son succès. Donc on n'est pas à la traîne.
Non, on a beaucoup de progrès à faire. Il faut faire un bilan lucide des choses. C'est ce que nous avons fait avec Alex dans ce rapport. Mais il faut aimer les langues. Il faut aimer suffisamment les gens pour croire en eux et penser qu'ils peuvent progresser. C'est ça le message.
Merci Chantal Mann d'être venu à ce micro. Merci beaucoup. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, nous n'avons plus d'argent.
Alors individuellement, si, hein, sauf Guillermo Guiz qui ne vient ici qu'une fois par semaine et qui a accepté d'être payé en bolivar vénézuélien sur le conseil de Jean-Luc Mélenchon, croisé un jour à la sortie de la matinale. Mais Radio France n'en a plus. 60 millions d'économies d'ici à 2022, on doit faire. Je vais donc passer dans le public avec un chapeau.
Bienvenue avec Léa Cadeau-Moudagny, Daniel Morin,
oui, c'est ça.
Albert Algueux, Guillermo, Tanguy Passureau.
Bonjour.
Et nos invités, Déborah, François et Paul Ami.
Bravo.
Ce film et cette très belle affiche d'ailleurs de l'autre continent, parce que en ayant vu d'abord l'affiche et après le film, ce qui est une chose assez normale dans la vie finalement.
Il a une vie naïve, c'est incroyable. Il voit des affiches, il voit le film quand ça lui plaît.
D'un coup, quand après avoir vu le film, maintenant quand je revois l'affiche, ça me replonge dans l'émotion de ce moment qui est l'un des moments les plus forts du film. Voilà, allez voir le film, vous comprendrez toute l'importance et l'émotion que vous pourrez ressentir en voyant l'affiche après avoir vu le film.
Ouais, faut vraiment voir ce film.
La force de l'esthétisme, parce que dans un moment de silence, ces deux regards de ce couple qui s'aime, qui est un beau couple, comme on aimerait en vivre, en connaître ou en faire partie. Et puis,
ça fait rêver les
belles histoires d'amour. Forcément, ça
un
fait
jour
rêver.
Ça arrivera.
Y compris face à l'adversité, face aux problèmes que l'on peut vivre au sein d'un couple. Alors, il n'y a pas que la jalousie, il n'y a pas que l'amant ou la maîtresse, il y a la maladie, c'est elle qui vient foutre la merde. Il n'y a pas d'autre terme.
Oui, et puis quand il y a ça qui arrive, forcément, tout le reste s'efface un peu. On est dans un entonnoir, il faut être juste là pour l'autre. Et c'est vrai que
c'est pas toujours le cas, Déborah, c'est pas toujours le cas. Il y a ceux aussi qui partent.
Oui, mais c'est ça, les gens qui sont autour ne le prennent pas tous de la même façon, en fait. C'est ça, et parfois, les gens qui sont autour ont du mal à, du coup, s'entendre entre eux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait juste avec la personne qui est concernée.
Et puis des scènes qui sont silencieuses, parce qu'on dit qu'il y a énormément de langues qui sont parlées, que vous avez vos codes, mais le premier code, c'est dans le regard aussi, Paul. Il y a simplement le fait de se regarder, de s'effleurer, de se sourire.
Bah oui, d'aborder un autre continent, c'est d'abord avec le regard, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est une forme de langage, en fait, le silence.
Le silence, oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas plus sincère que le silence. C'est là qu'on ressent les choses. C'est cette énergie qui est un langage universel.
Et c'est ce qui est le plus dur à jouer au cinéma quand on n'a rien à dire.
Moi, j'adore ça, moi. De ne rien dire.
C'est toujours vachement agréable de sentir ce moment de silence, justement. Et puis, les gens peuvent se concentrer aussi sur l'image, sur ce qui se passe exactement sur l'image, soit sur le visage des comédiens ou sur d'autres images.
Et interpréter comme ils le veulent, quoi. Chacun.
Exactement. Chacun c'est, le silence au cinéma, pour moi, c'est l'endroit où on peut faire son propre film, en fait.
Tu vois, il y a c'est bien de se taire de temps en temps.
Non, mais il y a une sincérité dans le silence. La parole de
C'est ça, exactement.
Il y a une sincérité dans le silence. Et en fait, au cinéma, la caméra prend tout, et donc c'est très agréable en fait de jouer dans le silence. Ça veut...
La caméra prend tout, c'est quoi? C'est un vampire la caméra?
C'est un aspirateur, oui.
L'autre continent, le film est signé Romain Cogitor. Très belle image, très belle histoire, belle interprétation.
Belle affiche.
Enfin, vous avez compris, il y a belle affiche. Il y a beau papier, beau grammage, tout pour aller voir ce film.
Super réalisateur.
Paul Amy.
Super réal et seul film français sorti de la semaine, donc faut le soutenir, faut y aller.
À voir, oui, absolument. Voici Tanguy Pastureau. C'est ça. Là devant toi. Ah. Tanguy. Radio France vit une période tourmentée.
Oui, alors en apparence, tout est normal. Hein. On boit des cafés, Daniel Morin déambule dans les couloirs, dans sa chemise défraîchie, tel le fantôme de Michel Houellebecq quand il aura clamsé. Chaque mois, on organise une journée sans plastique, comme dans toutes les boîtes, sauf chez Marc Dorcel, parce que si un acteur chope la ch'touille, il peut faire un procès derrière. Hein. Devant aussi, remarquez, puisque l'acteur du X est très souple. Bref, tout paraît tranquille, mais en fait, la situation est grave. Notre pays est ruiné. Bruno Le Maire compte en pleurs les 16,30€ qui lui restent dans le cochon de la France et après on ferme. Hier, j'étais en voiture au feu rouge qui je vois Gérald Darmanin. J'ai baissé la vitre, il m'a dit « Famille syrienne, pitié pour manger ». Moi, vous me connaissez, je ne supporte pas la vue de la misère. Du coup, j'ai démarré aussi sec, je l'ai laissé sur place. C'est ainsi, la France, ça a été énorme, on a kiffé, on a éclaté les Anglais, on a répété avec aplomb pendant des lustres à des millions de petits noirs que leur ancêtre, c'était Astérix. Les gosses disent « Vous êtes sûrs ?» parce que dans toute la ville, on n'a pas un rouquin. Mais c'est fini, on est des gueux. Stephen Bern et Laurent Deutsch doivent se relayer en tant que poutre à chaque église qui menace de s'effondrer. Même à l'Eurovision, on ne brille plus. Alors que c'est devenu un concours de tolérance et qu'on a envoyé un arabe gay. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Qu'on lui coupe une jambe? Qu'on l'allonge sur des types, des tics pour qu'il chope la maladie de Lyme et qu'il soit paralysé de la moitié de la face comme Nicole Kidman? Non. Le seul truc dont on pouvait encore être fier, c'est la radio publique. En effet, chaque jour à 12h10, l'auditeur saisit le sens de l'acquittement de sa redevance. Mais il y a sûrement aussi d'autres bons moments sur
des fois 12h12, tu vois, ça dépend.
Rien que France Inter, de plus en plus de gens nous écoutent, de tout type, des petits, des gros, des grands, des blancs, des jaunes. Nos auditeurs, c'est comme les zizi dans la chanson de Pierre Perret, mais en moins beau quand même. Donc le gars comme moi, qui ne connaît rien à l'économie, hein, les Échos, j'ai longtemps cru que c'était le journal des obstétriciens. Donc là, il se dit, ils doivent embaucher à tour de bras à Inter. Ils imaginent qu'on vient de signer pour la saison prochaine Gad Elmaleh pour 4 fois le salaire de Mbappé au PSG, avec derrière lui copie comique masquée qu'il fouette dès qu'il langue sur la page blague du Télé Z. Eh ben non, il n'en est rien. Au contraire, on doit faire 60 millions d'économies d'ici à 2022. Alors ça va passer par des petites choses très simples. Par exemple, toutes les 10 secondes d'antenne, il y aura un blanc de 2 secondes afin de couper le jus. À la fin de la journée, ça fera 4 heures de off. Économie EDF, 16 000€ par an. La matinale, fini Léa Salamé, trop cher. On prendra son conjoint Raphaël Glucksmann, socialiste sans emploi, pléonasme. Hein, pour 9€ de l'heure, il sera content de bosser. Toujours sur la matinale, terminer les croissants, les invités auront droit à un demi apéricube, hein, pas l'original, la contrefaçon bulgare, hein, l'apéricubitch, 9 centimes la tonne. Alors notre présidente Sybille Veil, il l'a dit lundi, les employés seront également plus polyvalents. Albert Algou, par exemple, à l'issue de l'émission, animera le club des anciens de France Inter, hein, composé de lui-même et de Laure Adler. Puis il passera la spi à la fin de l'émission d'Antoine Decaune, hein, Pop-up-up, qui sera rebaptisé Pop-up, hein, parce que ça permet d'utiliser moins d'encre sur les affiches de pub.
Est-ce que nous seront formés dans le cadre de cette polyvalence?
Non, bien sûr, puisqu'il n'y a plus d'argent. Hein, donc pour les tâches les plus risquées, comme le lavage des vitres du 6e étage, des stagiaires de 3e seront employés, acnéiques et fans de Maître Gims, comme ça s'y tombe, il n'y aura personne pour les regretter. Nagui, dans le cadre de cette polyvalence, alors j'ai eu la direction.
Dis-moi.
Pas au téléphone, ça coûte trop cher, ils m'ont fait passer un rat avec un petit mot scotché sur son dos. Vous travaillerez en juillet-août à l'accueil de la Porte B. À noter que la saison prochaine, c'est Guillaume Guiz qui prendra votre place à la tête de la bande originale, hein, parce qu'il est moins cher. Alors niveau salaire, il se situe entre le philippin, le malgache et Faudel. Hein. En plus, vu sa rapidité de diction, l'émission peut être torchée en 27 minutes. Puis on fera un blanc d'une heure, la facture EDF va encore baisser. Au journal du midi, Laetitia Gaillet sera remplacée par Julie Gaillet, qui n'a pas joué dans un film qui marche depuis 1992 et a accepté en conséquence d'être rémunérée en chèque déjeuner. Hein, ce type de rémunération va plaire à mon Jules, il est si gourmand, le coquinou, aurait-elle confié à la présidente de Radio France, Sybille Veil, dont le bureau se situe désormais devant la maison de la radio, la tente Quechua jaune. N'hésitez pas à lui laisser une petite pièce si vous passez devant. Alors il y aura enfin Radio France un plan de départ volontaire. C'est le petit nom mignon pour une charrette de licenciement. Nous sommes 4000 d'ici 2022. Il doit rester 15 personnes, dont 15 bénévoles. Hein, ensuite, on passera en radio associative et le groupe Trio viendra jouer du djembé. Enfin, pas Trio, un duo, parce qu'on n'a pas de quoi se payer les trois. Alors la procédure pour le départ volontaire est très simple. simple. On vous dit, t'es sûr, tu veux pas partir? Vous répondez, bah non, je suis bien là. On vous dit, Augustin Trapenard va inviter Booba tous les matins. Vous répondez, et on passera son single Arc-en-Ciel? On vous dit oui. Vous répondez, quelle sortie est la plus proche? Bref, la grille de rentrée se prépare. En matinale, le duo Charlie et Lulu fera son grand retour. Ah, 12 euros la paire par mois. Ils sont coproduits par Lidl. Ensuite, le reste de la journée sera animé par la marionnette Tataillé, hein, qui viendra sans son humain, puisqu'il prenait une blinde. Donc, on aura Tataillé seul au micro. Un long moment de silence, mais un silence qui ne coûte pas cher. C'est fini, on est ruiné. Je rends le stylo bic que j'ai volé le mois dernier à la radio.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Oui, on retrouve Nagui le 24 août au festival.
Non, Tanguy.
Mais c'est la polyvalence.
Ben c'est ça. Voilà,
donc
c'est
Nagui à la place de Tanguy.
Début des économies. Moi, Tanguy, sur scène, je crois pas que ça vaille la peine de faire.
On retrouve Tanguy le 24 août, pardon, au festival d'humour de Tournon-sur-Rhône.
Oh là là. Bon, l'histoire est vraie, paraît-il, l'histoire de l'autre continent. Déborah, c'est une jeune fille. Racontez-nous.
Oui, c'est. Alors, je ne vais pas vous le raconter comme raconte le réalisateur, parce que sinon, on va prendre l'après-midi. Mais un jour.
Il est lent quand il parle ?
Non, pas du tout, mais il raconte toute l'histoire. C'est une très belle histoire. Il est tombé amoureux un jour dans un train d'une femme qu'il ne connaissait pas. Il s'est assis à côté d'une femme. Il est tombé instantanément amoureux d'elle. Et elle aussi, en fait. Et ils se sont retrouvés sur le quai. Et cette femme lui a raconté cette histoire quelques jours plus tard, au creux de la nuit, comme il aime le raconter.
Qu'elle aurait vécu une histoire d'amour avec...
Elle lui a raconté pendant 1h30 et c'était la durée du film. Donc il s'est dit... elle a vécu cette histoire.
C'est d'accord. Oui. Donc tout est, entre guillemets, tout est vrai. Non, il a un tout petit tout peu est, tout est, rendu plus poétique certaines choses.
Tout est vrai,
choses,
puis il y a des, il y a des choses qui ont été enlevées aussi, parce que justement, il y avait plus d'aller-retour. Enfin, c'était un peu plus... complexe, mais tout, sinon tout s'est passé comme ça. Il y a juste les personnages qui ont été évidemment un tout petit peu remodifiés pour pas coller aussi trop au réel, quoi.
Alors malgré le physique imposant que vous avez, Paul, dans ce film, vous êtes presque un enfant dans les bras de Déborah François.
Dans le film, à un certain moment.
Il y a un côté, oui, c'est ça.
Mais je pense que c'est le personnage.
Elle vous protège. Oui, bien sûr, je parle du personnage.
Ouais. Non, mais tout à fait, non. Non, mais c'était le jeu, cette personne était. C'était un enfant. Il a un rapport au monde qui est très, très naïf. Pas très naïf, mais très jeune. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, en le présentant, c'est un peu un autiste. Il est dans ses études et il a peu de rapport au monde. Peu de rapports émotionnels, amoureux, amical.
Ce qui est paradoxe pour quelqu'un qui a autant de langues, il a du mal à communiquer.
Oui. Ou alors il ne communique pas ses émotions. Ouais.
Alors que finalement, c'est lui est capable de dire je t'aime. C'est pas forcément le cas du personnage féminin.
La pensée pas la même en tout cas.
Oui, mais lui est effectivement, il a une grande profondeur et une grande sensibilité et il est désarmé face à ça. Alors que elle, justement, sa sensibilité, elle la camoufle. Il y a un milliard de trucs devant, donc pour elle, elle jette les je t'aime, c'est très très extérieur, quoi. Mais quand il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur, d'ailleurs, quand c'est lui qui le dit, tout d'un coup, ça la scotche.
Ouais.
Elle n'a plus les mots.
Comment on joue ce genre de film où on doit, à la fois on est actrice, on est acteur, on fait son métier, mais on doit être crédible en tant que couple, en tant qu'amant, et est-ce que c'est des heures de travail? Est-ce que vous voyez en dehors du plateau pour mieux faire connaissance, mieux s'habituer au regard de l'un et de l'autre, avoir une espèce de complicité en plus du jeu? Ça se travaille, ça?
Oui, là-bas, on est allé d'ailleurs. Il y a sur mon bureau, il y a des photos que nous on a fait parce qu'on est allé se promener dans des mémorials, dans des choses les peu de jours où on avait un petit peu de off.
Donc vous passiez moments ensemble sans être filmé.
Oui,
en fait.
On en a passé. Et puis on a commencé la première scène. C'est la scène de fin. Donc on a commencé la première scène de tournage vraiment. C'est une grosse scène très forte, voilà, où on s'envoie un peu des choses à la tronche. Et on a fait ça en premier, donc c'est sûr que ça brise la glace. Hein.
Une bonne bagarre pour commencer, et après on verra. Vous êtes totalement bilingue. Est-ce que l'idée de faire une carrière aux États-Unis vous attire ou pas du tout, Paul Ami?
Oui, complètement. Mais ça viendra, c'est pas quelque chose vers lequel j'aimerais bien, mais de la bonne manière. Donc
c'est quoi la bonne manière?
Bah, je sais pas, le bon film, le bon réalisateur.
Ah, la bonne histoire, toujours.
Ouais. Ouais, la bonne rencontre.
Ce serait qui le bon réalisateur si vous deviez comme ça faire un vœu?
Imaginez avant, je me disais Terrence Malick.
Mais vous avez vu le dernier, vous vous êtes dit non?
Non, non, pas toujours. Mais en fait, je pense pas qu'il faut. En fait, mon coup de cœur ces derniers temps, c'est Jim Cummings, qui a fait un film qui s'appelle Thunder Road.
Ouais, génial. Ouais. Génial.
Ouais, j'adore ce réalisateur.
Qui incarne un flic complètement dépassé, qui vit un enterrement. Enfin, c'est un super film qui était présenté à Deauville, qui a gagné à Deauville d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que le fait de tourner à l'étranger, ça aide finalement à créer sa bulle et à se retrouver l'un et l'autre ensemble? Si ça avait été tourné à Paris, ça aurait été totalement différent.
Bah, en fait, la préparation du film a été très importante, aussi bien pour l'apprentissage des langues que pour la création des personnages, et de se retrouver à Taïwan après avoir comme ça fait une sorte de un travail de fond. Bah, ça a permis en fait de se libérer de soi, un peu de se détacher du quotidien et de pouvoir vraiment se plonger dans ces personnages.
Est-ce qu'on apprend quelque chose?
C'est la colo du cinéma, quoi. C'est la colo du cinéma, se retrouver avec. Mais en plus, en tant qu'acteur, on est parti à deux, quoi. Donc il y avait deux acteurs français, c'était Paul et moi, et l'équipe française, on était cinq. Le réalisateur compris. Donc en fait, si on se retrouvait toute l'équipe française, on était sept, quoi.
Ce qui est rare sur un tournage.
Ce qui est hyper rare, normalement, une équipe de tournage, c'est au moins une quarantaine de personnes. Donc là, on se retrouve en autarcie, quoi.
Est-ce qu'on apprend sur soi aussi avec ce genre de rôle, avec ce genre d'histoire à porter, face à la maladie, face à une histoire d'amour, face à des combats que l'on mène? Est-ce qu'on sort indemne d'un tournage comme cette histoire, L'autre continent?
Moi, j'adore ce genre de film où justement, j'ai l'impression que ça a posé comme question au public. Peut-être que je me trompe après, mais moi, c'est ce que je ressens en lisant le scénario et c'est ce que ça me fait à moi. Et vous feriez quoi en fait?
Exactement.
Vous feriez quoi à ma place? Et c'est impossible à juger. Il y a personne en fait. Je me suis dit ça et il y a personne qui est sorti du film jusqu'à présent après en me disant j'aurais pas fait ça ou j'ai jugé votre personnage. J'aime les films où on démontre au public que c'est difficile de juger en fait. Voilà, et ça fait réfléchir les gens. Et ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses.
Il faut dire on rappelle qu'une maladie, encore une fois, quelle que soit la maladie, mais une maladie vient comme une espèce de chamboule-tout, foutre en l'air l'histoire d'amour. Là, l'amour
est. Un coup du sort, hein, voilà, y en a d'autres. Hein.
L'amour est éprouvé, mais ce qui est encore plus violent, c'est qu'il y a. Toujours, il y a ce combat contre la maladie, puis un espoir, puis peut-être des désespoirs. Enfin,
Mais ce qui est dur là-dedans, c'est la censure émotionnelle.
C'est
toujours d'avoir. Et en même temps, on ne peut pas lâcher l'espoir, parce que l'espoir, c'est. D'ailleurs, on en parle énormément dans le film. L'espoir, c'est peut-être aussi ce qui soigne. Donc, il y a ça. Donc, on ne peut pas lâcher ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est usant, en fait, émotionnellement. Ouais.
Romain Cogitor signe ce film donc avec Déborah François, Paul Ami, Daniel Martin, Christiane Millet, Vincent Pérez, Nano Garcia, Avi. Song, et ça s'appelle L'autre continent. Quant à l'autre incontinent, le voici.
Vous savez, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait drôle. Chez M6 quand on sait pas qui mettre à l'antenne? On appelle qui?
Stéphane Plaza.
Bien joué, Nagui. Stéphane Plaza, c'est de l'immobilier, c'est vrai, mais pas que. Stéphane Plaza, c'est aussi des maisons à vendre. Mais pas que, c'est aussi des appartements à louer. Bref, une offre aussi variée que touffue. Voilà pourquoi, sur M6, on compte sur Stéphane Plaza. Oui, Stéphane Plaza est un phénomène qui dure, pas comme Christina Cordula. La styliste brésilienne qui rit la bouche ouverte comme un alligator épileptique n'est plus en odeur de sainteté. Son émission Les Reines du Shopping ne marche plus, dommage. C'était un super concept. Des filles qui essayaient des fringues et qui... Et c'est tout. Du coup, fini les règnes du shopping. Et pour reprendre le créneau, la direction, c'est creuser la tête. Et si on demandait à Stéphane Plaza? Bonne idée! À partir du lundi 24 juin, nouveauté sur M6 à 17h25, ne manquez pas le nouveau programme de Stéphane Plaza. Un programme révolutionnaire qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Découvrez Mieux chez soi, une émission consacrée à la rénovation de son appartement. Tu habites dans un appartement que tu aimes, mais tu as des goûts de merde et personne ne veut venir chez toi. Tu as une belle maison, mais ta déco est tellement à chier que ta femme est partie vivre avec le voisin. Chez toi, le papier peint est tellement dégueu que tes enfants se sont mis à prendre des drogues dures. Cette nouvelle émission est faite pour toi. Stéphane et sa bande de décoratrices viennent au secours des gens qui n'ont aucun goût. Grâce à leur expertise, ils vont transformer en cocon idéal ce qui pour l'instant est encore un infâme trou à rat. Mieux chez soi, c'est à partir du 24 juin sur M6 bien sûr. Si ça marche, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux défis proposés à Plaza. Après recherche appartement, maison à vendre et mieux chez soi, retrouve bientôt sur M6 Stéphane Plaza avec Résidence secondaire. Un programme consacré à la recherche de la deuxième maison, celle des vacances, celle du bon temps. À la mer, à la campagne ou même en montagne, rien n'arrête les équipes de Stéphane Plaza à la recherche du pied-à-terre idéal. Résidence secondaire, bientôt sur M6. Et pourquoi s'arrêter là? C'est la fin des vacances, période où on veut toujours un peu de changement chez soi. Et pour cette raison, M6 vous propose dès septembre de retrouver Stéphane Plaza dans deux nouveaux programmes en plus de Recherche appartement, maison à vendre, mieux chez soi et résidence secondaire. Tous les samedis à 18h, ne manquez pas Carrelage ou Parquet, le programme de Stéphane Plaza qui vous donnera les meilleurs conseils pour les soldes de qualité. Le lendemain dimanche, toujours à 18h, retrouvez Stéphane Plaza dans Poutre apparente, l'émission qui vous dit tout sur comment réussir son plafond. Bon, je crois que si vous aimez Stéphane Plaza, vous serez comblés, les amis, à la rentrée. Dans le cas contraire, vous pouvez dès maintenant supprimer le bouton numéro 6 de la télécommande. Quand même incroyable, hein, ces animateurs qui occupent l'espace antenne de leur chaîne avec deux, voire trois émissions hebdomadaires, plus des spéciales. Oh. Insupportable tout ça. Allez, à demain.
Merci Daniel Morin. La bande originale, Nagui. Merci Déborah François, merci Paul Lamy. L'autre continent, le très beau film de Romain Cogitor sort aujourd'hui au cinéma. L'occasion pour moi d'embrasser Nicole qui nous écoute, votre douce maman.
Oui, et vous venez de me faire gagner des bouquets de fleurs parce que j'ai oublié son anniversaire. Merci Nagui. Je vous suis éternellement reconnaissante.
C'est aujourd'hui l'anniversaire ?
Non, c'était
il y a
deux semaines.
Oh non, bon anniversaire Nicole. Demain, Ginny Chemla sera notre invitée. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter. Merci.